Non, c'est à toi, Pascal.
Je vais prendre ouais. Une vidéo qui nous reprend, je pense, quant au regard que l'on peut avoir sur soi et sur les autres. Hein? Particulièrement nous, Français, qui avons plusieurs robinets dans nos maisons et qui ont que très, 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 très rarement une coupure d'eau. Voilà. Et qu'en est-il de notre reconnaissance envers Dieu et de notre pensée vis-à-vis de nos prochains? Voilà. Alors, en accord avec Marc sur ce culte autour du sel, j'avais préparé un message que je vous donnerai probablement la prochaine fois, parce que le sel proposait un thème, proposait un message que j'ai en grande partie repris, parce que le thème va très bien en fait avec ce que nous avons déjà vu, qui dit faisons du bien à tout le monde. Alors pour cela, je vous propose en fait de prendre une lecture dans l'Épître aux Galates au chapitre 6 et on va lire les versets 7 à 10. Donc aux Galates chapitre 6, versets 7 à 10, une épître que nous avons étudiée l'année dernière. Et qui nous a rappelé en fait à quel point nous pouvions prendre ce que Dieu nous donne sans chercher à mériter quoi que ce soit, mais vraiment de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et là, le chapitre 6, le dernier chapitre de l'Épître aux Galates, ben, c'est un peu comme une conclusion à tout ce que Paul dit dans ce livre. Donc le texte nous dit ceci: Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Vous avez peut-être remarqué qu'en fond d'écran, c'est mon épouse qui l'a trouvé, une charrette remplie de blé. Alors, d'après vous, pourquoi l'agriculteur a récolté du blé? Eh bien, tout simplement parce qu'il avait planté du blé. Dans mon jardin, quand mon épouse plante des tomates, on récolte des tomates. Quand on plante des courgettes, on ne récolte pas des pommes de terre. Et là, ce texte nous parle de veiller en fait à ce que nous plantons, parce que nous récolterons ce que nous avons semé. Et je crois que cela doit nous amener à réfléchir en fait à ce que nous faisons de nos vies. C'est une exhortation qui nous amène en fait à considérer quelles sont nos actions envers nos prochains. Et j'irai plus particulièrement ceux qui sont dans le besoin et que nous avons, nous Français, très probablement la possibilité d'aider. En fait, la Bible nous montre clairement, et on le voit dans cette phrase, faisons du bien à tout le monde, que nous sommes appelés à être des acteurs et non des spectateurs. Et très souvent, nous tombons dans le fait de devenir spectateurs parce que nous sommes centrés sur nous et nous regardons à nous. Et du coup, nous ne nous intéressons pas forcément à ce que les autres vivent. J'aurais envie de dire que si des non-chrétiens ont ce souci d'aider celui ou ceux qui sont dans le besoin, imaginons un instant ce que nous, chrétiens, nous pouvons apporter aux autres. Alors, j'aurais envie de dire que faire le bien, quand on regarde tout ce que la Bible nous dit, ça doit faire partie de l'ADN du chrétien. Et c'est un peu ce que Paul rappelle ici, dans sa lettre, en rappelant que alors, n'oublions pas que Paul s'adresse à des êtres qui s'estiment hyper spirituels, ou certains qui sont tombés dans le légaliste. C'est-à-dire, il faut faire ceci pour mériter le salut. Et d'autres qui disent, ah voilà, on est tellement spirituel que quelque part, on est presque à l'abri de pouvoir faire n'importe quoi. Et ces deux extrêmes peuvent nous tomber dessus si on n'y prend pas garde. Le sens de l'exhortation de Paul est clair quand on regarde le cadre dans lequel elle s'inscrit. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce texte se situe vers la fin de l'Épître aux Galates. Hein, et il s'agit donc d'un aboutissement, d'une conclusion logique. Voilà logiquement ce qu'un chrétien doit vivre. Au verset 8, on voit que l'apôtre emploie une expression très riche lorsqu'il désigne celui qui sème pour l'esprit, par opposition à celui qui sème dans la chair, pour la chair. L'image de la semence et de la moisson est une image qui est forte, parce qu'elle évoque la conduite sur terre, et ce qui sera suivi un jour du jugement final, le jour de la récolte. Nous sommes encouragés de la part de Dieu à semer. Semer pour l'esprit, c'est-à-dire semer, je dirais, pour plaire au Saint-Esprit, plaire à Dieu, vivre pour lui être agréable. Et là, on voit tout de suite, me semble-t-il, une priorité qui oriente nos actions, pas pour nous-mêmes, mais pour plaire à Dieu. Et si vous vous rappelez ce qu'on avait vu la dernière fois, dimanche dernier, rendre les autres, être heureux, c'est commencer par rendre les autres heureux. Le fait que Dieu nous demande ceci et qu'un jour il y aura la distribution de récompenses lors de la moisson, c'est que Dieu voit et cela devient prioritaire. Et là, je dirais que c'est quelque chose que nous devons apprendre, que je dois apprendre régulièrement. C'est que ce qui est important dans ce que je fais, dans ce que je dis, c'est qu'est-ce que Dieu en pense et pas qu'est-ce que les autres en pensent. Mais premièrement, qu'est-ce que Dieu en pense? Et nous pouvons constater, la Bible nous le dit clairement, que nous allons récolter ce que nous semons. Et c'est pour ça qu'il serait peut-être important le matin de dire en fait, Seigneur, qu'est-ce que je vais semer aujourd'hui? Ou je dirais tout simplement, dans mes réactions vis-à-vis de tellement de domaines, tellement de choses, souvent par rapport à des choses qui me touchent d'ailleurs particulièrement. Qu'est-ce que je vais semer? Qu'est-ce que je vais semer et pour qui je vais semer? Parce que la personne qui choisit de semer par l'esprit, pour l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Ils sont forts les mots qui sont employés. Et si vous avez vu les premiers mots du verset 7, il mériterait d'ailleurs à eux seuls qu'on s'arrête sur ce verset 7. Mais ce n'est pas le but du message aujourd'hui. Mais il dit, ne vous y trompez pas. On peut se tromper de chemin. On ne se moque pas de Dieu. C'est fort, l'introduction. Alors, on passe souvent à la suite, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Mais ça commence par ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et en relisant ce message et en préparant, je me suis dit, oula, c'est pas n'importe quoi. Dieu me dit, attends, on ne se moque pas de moi. On ne fait pas n'importe quoi. Est-ce que tu te dis chrétien et tu travailles pour moi? Ou est-ce que tu te dis chrétien et tu travailles pour toi-même? Alors, bien sûr, attention, ce verset ne développe en aucun cas une théologie du mérite. Et Paul, tout au long de son épître, justement, va à l'encontre du fait de mériter par nos actions. C'est un peu le problème dans lequel étaient tombés certains Galates qui pensaient que en revivant certaines choses du judaïsme, ils pouvaient mériter plus ou être encore plus spirituels. Alors que c'est pas du tout le message que Dieu donne. Il ne nous dit pas « vis pour plaire à l'esprit et ainsi tu vas gagner le ciel ». Il dit simplement « agis pour Dieu ». Parce que l'Épître, elle insiste tellement sur la justification par la seule foi en Jésus-Christ. Ce texte décrit en fait tout simplement les effets de la foi et qu'est-ce que cela va produire en nous par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Les réformateurs disaient que les œuvres constituent la preuve de l'authenticité de la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas mes œuvres qui vont permettre de mériter quoi que ce soit, mais c'est parce que Dieu m'a donné par grâce tout ce dont j'avais besoin qu'en retour, mes œuvres ont envie d'apporter quelque chose à Dieu. Ce passage est aussi important parce qu'il est un appel à la responsabilité, à l'action, à l'activité. Et on se rend compte que le chrétien n'est pas quelqu'un de oisif, quelqu'un qui peut rester sans rien faire en disant « parce que je ne fais pas de mal, du coup je fais le bien ». Dieu va plus loin. Il ne dit pas simplement de ne pas faire du mal, il dit de faire le bien, de semer pour l'esprit. Je n'ai jamais été un grand agriculteur ou un grand paysan ou quoi, mais je sais que semer demande de l'action. On ne reste pas sur le fauteuil de sa chambre en train de regarder la télé et de lancer des graines en espérant qu'elles tomberont dans le jardin. Il faut aller, il faut préparer la terre. Semer demande un effort. Et comme le texte dit, on l'a vu au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. C'est vrai que nous pouvons aussi nous décourager. Nous pouvons aussi être fatigués parce qu'on a l'impression qu'on ne voit rien. Alors c'est sûr que celui qui sème et qui sort le lendemain dans son jardin et qui se dit « ben mince, je ne vois rien, oh c'est décourageant !» ou même au bout d'une semaine « je ne vois rien !» Au plein air, on a, avec Laurence, enfin surtout Laurence, planté des fleurs. Et pendant des semaines, on ne voyait rien. À un moment, on se dit « mais alors on a arrosé, mais est-ce que ça va venir ?» Et c'est venu. Et c'est venu. L'agriculteur qui sème, il sait qu'un jour, cela va produire quelque chose. Alors, il y a un bon côté, c'est de se dire, parfois nous semons, et nous disons, mais Seigneur, je ne vois pas. Et le Seigneur nous dit, un jour, ça va semer. Mais il y a aussi l'autre versant qui est moins réjouissant, c'est de dire, oh, je peux faire des choses pour la chair, oh, je risque rien, je vois rien. Mais un jour, la production arrivera aussi. Et alors, je récolterai ce que j'ai semé. Donc, soyons très prudents dans ce que nous semons et pour qui nous semons. Faire le bien, ce n'est donc pas avoir entré dans de grandes discussions, ce n'est pas refaire le monde, ce n'est pas aimer l'humanité tout entière en restant assis et je dirais même parfois simplement en priant. C'est aussi de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce monde aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Et quand nous lisons le verset 10 en entier, nous voyons qu'il est écrit « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Et c'est là que l'Église prend aussi son importance, parce que nous nous rendons compte que Dieu nous encourage à nous occuper des uns des autres, pas à penser à soi, parce que si je pense à moi, je vais tomber dans l'orgueil. Moi, je dois avoir telle place, moi je dois ceci, moi je dois cela. Mais Dieu ne nous dit pas du tout ça, il nous dit « pense à l'autre, intéresse-toi à l'autre et moi je m'occupe de toi. Je vais te préparer la place qui la tienne, mais écoute-moi. » Et je crois que trop souvent, même dans l'Église, même vis-à-vis des frères et sœurs, nous ne sommes pas assez à l'écoute de ce que Dieu nous demande. Parce que nous avons peut-être un peu trop semé pour la chair et pas assez pour l'esprit. Semer pour l'esprit, c'est dire, voilà Seigneur, je te donne ce que je peux faire. Dis-moi là où tu m'attends. N'oublions pas que dans le chapitre qui précède celui qu'on vient de lire, Paul nous parle du fruit de l'esprit. Et je vous rappelle, même si vous connaissez tous par cœur maintenant la liste, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. En fait, la Bible et l'Épître aux Galates nous rappellent tout simplement que nous ne pouvons réellement pratiquer le bien qu'en dépendant totalement du Saint-Esprit qui, lui, va agir en nous. C'est un peu l'image de ce qui se produit dans la nature où les fruits des arbres déposent de nouvelles semences dans la terre. Et c'est grâce donc aux fruits que l'Esprit porte en nous, la liste que nous venons de dire, que nous pouvons de nouveau semer pour l'Esprit. S'il n'y a pas au départ une fleur, nous ne pouvons pas par nous-mêmes semer, ou nous ne semons que ce que nous possédons. Or, au départ, sans l'Esprit, nous ne possédons que les œuvres de la chair. Nous avons donc besoin de venir auprès de Dieu pour que Dieu porte du fruit en nous, pour que nous puissions porter du fruit ailleurs. Ça semble si simple. Mais ce qui est encourageant, je dirais pour nous, c'est que Dieu nous demande des choses que dans ce qu'il nous donne. C'est-à-dire que quand Dieu nous demande quelque chose, il nous a aussi donné les moyens de le réaliser. S'il nous demande de planter, de semer, c'est qu'il nous a donné cette graine, mais encore faut-il venir la chercher. Il ordonne de semer pour l'esprit en faisant le bien, et il nous donne le fruit de l'esprit pour y parvenir. Faisons du bien à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les personnes que nous avons l'occasion de rencontrer et d'aider. Et ça rejoint l'idée de l'amour du prochain dans l'enseignement de Jésus. Paul pense à la fois à ceux qui appartiennent à la famille des chrétiens, des croyants, pardon, mais il pense aussi aux autres. Mais si nous ne savons pas nous aimer déjà, nous aider, comment arriverons-nous à aimer les autres? Notre texte constitue un appel à l'action et à la vigilance à l'approche du retour du Seigneur. Un jour, Dieu reviendra et nous demandera des comptes, et il ne nous demandera pas des comptes pour le voisin, pour le prochain, il nous demandera des comptes pour nous. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu m'as écouté? Mais pas dans le but de nous dire qu'est-ce que tu es mauvais, mais dans le but de nous dire tu n'imagines pas tout ce que tu aurais pu faire pour les autres et la joie que l'on retire quand on s'intéresse aux autres. Et je crois que c'est ça le message. Réaliser la joie que nous pouvons retirer quand nous nous intéressons aux autres. Parce que si je m'intéresse à moi-même uniquement, alors je vais tomber dans la comparaison, dans la crainte de perdre ou de ne pas être vu par les autres. C'est pour ça que Dieu nous dit, mais arrête de regarder à toi et regarde aux autres, comme moi je l'ai fait pour toi. Comment appliquer ces principes simples en apparence? Et dans le message qui était proposé, il propose quatre principes d'application. Alors, il est probablement impossible d'aider toutes les personnes qui ont besoin dans notre pays. Vous savez, quand j'étais tout jeune, j'habitais sur Paris et, comme beaucoup de Parisiens, je passais beaucoup de temps dans les transports en commun. Et une fois repris par un message, vous savez, dans l'émotion, parfois, d'un seul coup, on a envie de tout faire pour les autres. Et je m'étais dit, bah tiens, chaque fois je vais rencontrer quelqu'un dans le besoin, enfin plutôt quelqu'un qui demande dans le métro de l'aide, je vais voir si je peux donner. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était impossible. À moins de me promener avec un paquet de pièces, alors à l'époque c'était des francs, mais de pièces d'euros, mais c'est impossible. Je ne pouvais pas aider tous ceux que je rencontre. Et puis, il y avait aussi le fait de dire, mais est-ce que tous ceux que je rencontre et qui demandent ont-ils réellement besoin? Et je crois que c'est là que ce temps que nous passons avec Dieu, dans notre culte personnel, ce temps où nous apprenons à dépendre toujours plus du Saint-Esprit, ce temps nous permet d'apprendre aussi à discerner ce que Dieu nous demande d'accomplir. Quelles sont les personnes réellement dans le besoin que le Seigneur va placer autour de moi. Et je pourrais peut-être être surpris de ce que Dieu va placer sur mon chemin. Parmi toutes ces personnes, quelles sont celles que Dieu me met à cœur d'aider? Et il est important de prier pour avoir une vision claire. Je ne dis pas que c'est mal d'aider toutes les personnes qui vous le demandent, vous pouvez le faire. Mais je trouve beaucoup plus sage d'aider les œuvres, les personnes que Dieu me met à cœur d'aider. Parce que lui ne se trompe pas. Et lui connaît ce que moi je ne connais pas. Plutôt que l'émotion qui n'est pas toujours mauvaise en soi, demandons au Seigneur d'orienter nos cœurs vers ce que nous pouvons faire. Parce que Dieu sait ce qui ont besoin et il sait aussi ce que je peux aider. Et ça, c'est important, ces deux points. Et si nous décidons, bien sûr, il nous faut décider au départ d'aider, Dieu nous montrera comment et qui. Ça peut être aussi en tant qu'Église, et nous en reparlerons probablement à la rentrée, regarder ensemble quels sont les projets d'Église que nous pouvons avoir ensemble. Et là aussi, Dieu peut guider son Église dans ses choix d'aide, d'action. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne sommes pas en mesure de faire seuls, mais que nous pouvons faire à plusieurs. Vous savez, quand il faut déplacer une grosse pierre, tout seul, c'est difficile. Mais si nous nous mettons à plusieurs, alors nous pouvons déplacer de grosses, grosses pierres. Et c'est là aussi que l'Église prend toute son importance, de pouvoir ensemble faire des choses que seuls nous ne pourrions pas faire. Et puis, il y a aussi d'aider dans le sens d'encourager, c'est-à-dire, vous savez, les personnes qui sont en situation difficile n'ont pas envie de rester toute leur vie dans cette situation en disant « aidez-moi toute ma vie ». Et on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, elles ont envie aussi de pouvoir par eux-mêmes pouvoir vivre de leur travail. Et malheureusement, dans certains pays, ce n'est pas toujours le cas. Et je crois que c'est aussi de voir comment on peut aider. Et j'apprécie de voir des œuvres comme le sel qui aident à faire des puits, qui aident à faire telle ou telle chose, en aidant ceux sur place à pouvoir se prendre main tout seul. C'est accompagner. C'est parfois aider aussi un enfant à faire ses devoirs parce que les parents ne sont pas en capacité de le faire. Et il y en a plus qu'on ne le pense, même dans notre pays. Une manière concrète et simple de faire du bien aux personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin, c'est aussi de soutenir des œuvres comme le sel, mais il y en a d'autres. Le parrainage d'enfants. Quand je me rends compte le peu que me coûte le parrainage d'un enfant par rapport à plein de choses agréables que je peux faire à côté, mais ce que ce peu apporte à cet enfant, de lui donner une formation, de l'accompagner dans cette formation pour qu'un jour il soit autonome. Mais je me dis, mais c'est quoi c'est, je crois que c'est 30 ou 32 euros le parrainage d'un enfant, mais c'est quoi quand on regarde ce que l'on peut apporter. Les projets de développement, développer un puits. Alors c'est sûr que moi tout seul, je ne peux pas. Mais à plusieurs, on peut aider à développer des projets. Et puis il y a les secours d'urgence. On se plaint de ce qui se passe dans notre pays et je suis toujours attristé de voir aux informations des Français qui se plaignent. Vous vous rendez compte, on ne peut pas aller danser, on ne peut pas s'amuser parce qu'il y a le... Mais je me dis, mais n'oublions pas toutes les possibilités que nous avons dans notre pays face au virus. Les moyens qui sont là pour porter un masque, les moyens qui sont là pour se faire détecter, tous les moyens que nous avons dans notre pays, et nous nous plaignons parce que parfois nous ne pouvons plus faire telle ou telle chose. Mais dans certains pays, ils sont loin d'avoir un dixième de ce que nous avons. Là aussi, dans ces secours d'urgence, nous pouvons faire des choses. Vous savez, je me dis souvent, si demain un arbre tombe sur la maison, alors elle ne m'appartient pas, mais il y a des assurances pour remettre en état. Mais dans certains pays, quand l'arbre tombe sur la maison, ils n'ont plus rien. Je crois qu'on ne réalise pas, et moi le premier, tous les privilèges qui sont les nôtres dans notre pays. Le robinet, on a parlé tout à l'heure, manger à sa faim, mais on mange même plus qu'à notre faim. Mais certains n'ont même pas de quoi manger à leur faim. Je crois qu'on n'imagine pas. Alors, je ne suis pas en train de culpabiliser, parce que réjouissons-nous de ce que Dieu nous donne et profitons de ce que Dieu nous donne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'arrêter. Je dis simplement que nous pouvons aussi peut-être penser aux autres. Et je crois que c'est aussi le but de ces journées du sel, où nous pouvons tellement être pris par nos soucis de la vie que nous oublions aussi l'aide que nous pouvons apporter aux autres. Alors, faisons du bien à tous ceux qui m'entourent. Faisons du bien envers tous, et particulièrement envers les frères dans la foi. Et je crois, pour conclure, que Dieu n'est pas en train de nous demander de nous comparer les uns aux autres à celui qui fera le plus, mais simplement de l'écouter, de dire « Et toi, es-tu prêt à aider ?» Et derrière la notion de « Es-tu prêt à aider ?» c'est semer pour l'esprit. « Es-tu prêt à m'aider ? Es-tu prêt à me mettre en avant ? Parce que moi, je m'occupe de toi. » Mais peut-être que tu peux aider pour d'autres. Et à ce moment-là, on ne va pas faire par rapport à ce que les autres regardent, mais on va le faire avec joie de dire « Mais Seigneur, tu m'as tant donné et je peux faire ça pour toi. » Mais il y a aussi derrière, parce qu'il est aussi parlé des frères dans la foi, de se dire dans mes prières de tous les jours, est-ce que je peux aussi tout simplement dire « Mais Seigneur, tel frère, bénis-le. » Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on nous fasse. C'est aussi apprendre à ne plus juger, mais à aimer. C'est apprendre à prier pour les autres, Bien souvent, on a l'impression que, mais comment passer un quart d'heure dans la prière? Mais si je commence à faire la liste de tous les sujets de prière, de tous les frères et sœurs dans la foi, de tous ceux qui sont dans le besoin, mais ce n'est pas un quart d'heure qu'il me faut par jour, c'est des heures. Nous avons le privilège, la possibilité de semer pour l'esprit. Et cela nous empêchera de semer pour la chair. Et nous en retirerons une belle récolte, parce que c'est Dieu qui nous le promet. Et parce que l'esprit ne se trompe pas et ne nous oublie pas. Et au même titre qu'un agriculteur qui sème du blé sait qu'il peut récolter du blé, n'oublions pas que nous qui pouvons semer pour Christ, pour l'esprit de Dieu, nous pouvons récolter quelque chose de beau. Alors, réjouissons-nous de passer du temps avec Dieu et de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'apporte de l'aide? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Et je peux vous dire que Dieu nous montrera ce que nous pouvons faire à titre personnel, mais aussi en tant qu'Église. Ça revient toujours à la même chose. Dieu à la première place. Pensez aux autres avant de penser à soi. Et ne nous inquiétons pas, Dieu ne nous laissera pas tomber dans ce que nous-mêmes, nous avons besoin de vivre. Et nous serons dans la paix, dans la joie d'être aimés de Dieu et d'être au service de Dieu. Voilà. J'arrête là ce message. Quel privilège de vivre dans un pays où nous avons tout en abondance, mais où nous avons aussi cette possibilité, en tant qu'Église également, d'aimer les autres, d'apporter aux autres. Que Dieu vous bénisse et vous conduise et Dieu ne nous laissera jamais tomber. Ne l'oublions jamais. Bonne semaine à chacun. Amen.
Merci infiniment, Pascal. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait...